Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez le podcast de Walter Janten sur les réflexions des réformes de l'État belge en 2024. Mon nom est Walter Janten. J'habite la commune de Raren qui est située dans la communauté allemande de Belgique. En tant que citoyen, je suis membre de cette communauté que l'on appelle souvent dans les médias les derniers Belges. Je n'ai aucun problème avec cette classification pour des multiples raisons, un peu au folklore ethnique et constitutionnel qui est certainement une particularité de cet État. En effet, je suis né en 1947 et j'ai la citoyenneté belge. Je suis né dans la commune de Rosette, aujourd'hui un quartier de la commune de Raren. J'ai vécu quasi toute ma vie littéralement sur la frontière belgo-allemande, dans le coin le plus à l'est du pays, à 10 minutes du centre d'Aix-la-Chapelle, la ville de Charlemagne, où il est décédé en 814. Et je suis aussi vraiment un des derniers Belges si le pays ne parvient pas à se donner une structure qui puisse survivre et se maintenir dans un avenir plein de défis de toutes sortes, défis qui touchent aussi à l'existence solidaire de notre société. Le gouvernement de la coalition Vivaldi a lancé une vaste consultation en vue de procéder à une réforme de l'État après les prochaines législatures dès 2024. Elle a créé une commission pour d'abord évaluer les réformes de l'État depuis 1970. En tant que citoyen actif, j'ai toujours communiqué et évalué mes propres réflexions sur les réformes de l'État belge, et cela dès les années 1968, quand le train de la régionalisation de l'État s'est mis en marche et qui a contribué à une première réforme constitutionnelle en 1970. Pendant cette époque, j'étais étudiant à l'Université de Liège, dans la cité ardente donc. En tant que citoyen actif, je voudrais donc communiquer mes idées et visions sur cette nouvelle réforme de l'État belge. On ne peut pas, je pense, avoir des objections contre cette commission à la recherche des évaluations des différentes réformes, mais je pense surtout qu'il est nécessaire cette fois-ci de ne laisser aucune brique sur l'autre si on veut une réforme institutionnelle qui puisse trouver l'accord de tous et qui surtout mettrait l'État en forme pour un avenir européen, démocratique et solidaire. Si l'État belge se trouve dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, ceci est largement dû au fait que le pays est fondé sur certains principes qui n'ont pas respecté les aspirations de sa population multiethnique. Et cela déjà tout au départ en 1830. La révolution belge, telle que moi je l'interprète, était très rapidement encaissée par cette élite, aujourd'hui on dirait establishment, qui a compris ce pays en formation comme un pays francophone, un pays de la francité et non pas un pays comme un pays multiethnique. Ceci est un constat, rien de plus et sans malveillance, mais cette pensée était prédominante à l'époque où tous les États dits nationaux se constituaient. Elle est encore prédominante aujourd'hui dans large couche de la population, surtout francophone, et de sa classe politique. Il me semble que l'on n'a pas encore compris ce qui représente un État fédéré, de quelle construction soit-il. J'aurais multiples exemples à donner, surtout dans la relation de cette population avec les Allemands de Belgique, communément appelés depuis peu Ostbelgien. Cependant, déjà en 1830, Le nouvel État, issu de la Révolution belge, comprenait 245 000 citoyens allemands, que l'on appelait d'ailleurs aussi les Allemands de Belgique. Le gouvernement et le Parlement leur reconnaissaient certains droits, aussi en matière linguistique et surtout en matière de la législation et de la publication des lois. En 1839, le jeune État devrait céder certains territoires, avec comme résultat le fait que maintenant il n'y avait plus que 140 000 Allemands de Belgique. Dès cette date et jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Parlement et le gouvernement ont cependant tout fait pour réduire, par des astuces diverses, ce nombre à quelques dizaines de milliers de personnes, puisque en 1900, après le recensement, le député Woeste, comme par miracle, ne comptait plus que 14 500 citoyens allemands de Belgique. Encore une fois, ceci est sans reproche parce que je n'appartiens pas à cette famille ou communauté allemande initialement déjà représentée en Belgique. Encore une fois aussi, tout cela est l'histoire. Mais la pensée qui est derrière n'a pas évolué. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je veux plutôt regarder vers l'avenir. Pour cela, et selon mon avis, cet État doit recommencer à zéro s'il veut continuer d'exister, et c'est pour cette raison, je disais, plus que aucune pierre ne peut rester sur l'autre. En premier lieu, il serait vraiment important de se fixer une date limite pour cette nouvelle réforme de l'État, puisque nous entendons à nouveau déjà maintenant, avant même que les discussions ont commencé, que certains disent que tout est bien et qu'il ne faut pas trop bousculer les choses. Moi, je vous dis que si cet État n'est pas prêt à pousser le bouton reset, il tombera à part parce que la population flamande ne se laissera pas circuler à la laisse, comme on dit, encore pour des décennies. La Belgique n'a jamais été perçue à travers le monde comme un État fédéral, multiethnique, comme c'est le cas par exemple pour la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Fédération russe ou les États-Unis. Quelle date serait meilleure que 2030 pour dire qu'après 200 années d'existence, notre État se donnerait vraiment une nouvelle constitution, en commençant par son nom? Je vois cette constitution comme républicaine, fédérale, moderne et européenne, pour ne citer que ces adjectifs. On pourrait fêter le bicentenaire et en même temps partir pour un nouvel avenir. Le premier point, abolir la monarchie constitutionnelle. La monarchie devrait être remplacée par une république fédérée. Comme cette république devrait encore avoir un président, celui-ci peut être soit élu au suffrage universel ou par un collège quelconque, mais on peut aussi trouver une solution à la belge. La famille royale pourrait par succession occuper ce poste. De toute façon, la présidence est une fonction surtout protocolaire et il n'y aurait de bons arguments pour considérer une telle procédure. Le suffrage universel offre certains risques, elle aussi, du moins pour le choix du président. Le choix par un collège de députés ou d'autres politiciens, par exemple, présente aussi certains désavantages puisque les tractations politiques sont de rigueur. Donc, pourquoi pas ne faire le poste de président de la République fédérale dans les mains de la famille de Saxe-Cobourg et Gotha? Deuxième point. Remplacer le drapeau et le blason actuel. Le drapeau actuel de notre pays reflète la pensée initiale d'un État aligné sur la francité et de ce fait symbole d'un esprit francophone et non multiethnique. Déjà le drapeau de la Révolution brabançonne, aux mêmes couleurs, montrait ses couleurs en horizontal. Aussi, les révolutionnaires belges brandissaient initialement un drapeau avec alignement horizontal des couleurs rouge, jaune et noir. La tricolore à la française fut choisie peu après. Personne en Flandre ne peut s'identifier avec ce drapeau en tricolore, si on veut par là faire référence à la fédération. Troisième point, remplacer l'hymne national. L'identification avec la Brabançonne n'est pas évidente pour toutes les ethnies qui constituent le pays. La traduction dans les trois langues est un peu ridicule et l'association est simplement donnée pour une population dévouée à la monarchie ou dévouée à une Belgitude déplacée. Mais une identification avec l'hymne n'est pas donnée pour une grande majorité de la population. Cet hymne peut être maintenu, si on veut, par les vétérans de guerre, par exemple, comme on l'a vu longtemps, surtout en Wallonie. Le nom du pays doit changer. Le quatrième point. Un nouveau nom pour notre pays doit refléter le caractère républicain et fédéré du nouvel État. En allemand ou néerlandais, on dit Bund ou Bond. Une courte période, on parlait, au moment de la Révolution française, des États réunis de Belgique, et même de Belgica Federata. En empruntant le nom, comme en Suisse, on pourrait aussi dire Confederatio Belgica. Confederatio Belgica. Selon la structure choisie, on pourra aussi dire Federatio Belgica. Personnellement, je préfère la Confédération. Cinquième point, une fédération à quatre. La nouvelle fédération ou confédération serait composée de quatre États. La Flandre, la Wallonie, Bruxelles et Eupen-Saint-Vith. Pour Eupen-Saint-Vith, il est essentiel que les neuf communes ne sont pas partie intégrante de la Wallonie, même si des compétences pourraient être exercées en commun. Les communautés ou régions seraient donc abolies. Chaque État se donnerait une constitution, comme le font aussi les cantons en Suisse. De nouveaux États pourraient être créés par suffrage, commune par commune. Ceci est également une procédure qui fonctionne en Suisse très bien, par exemple. La question de savoir si des États pourraient aussi quitter la fédération doit aussi être négociée. Sixième point, Bruxelles, district européen. Notre idée sur Bruxelles est de créer par le Grand Bruxelles un État de la fédération, mais en même temps un district européen. Ceci serait à négocier avec la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Les limites de Bruxelles devraient être fixées par suffrage, commune par commune, encore une fois, comme c'est la règle en Suisse. Le district européen devrait être quadrilingue, néerlandais, français, allemand et anglais. Allemand parce que c'est une langue de la fédération et de 100 millions d'Européens. L'anglais pour toutes les autres langues européenne. Septième point, les frontières des différents États belges. Il serait aussi nécessaire de définir complètement les frontières linguistiques des États là où c'est nécessaire. Je suis moins spécialiste pour la frontière linguistique franco-néerlandaise entre la Wallonie et la Flandre, mais pour la frontière entre la Wallonie et la communauté allemande de Belgique, il est impératif que les différentes communes soient bilingues, soit allemand-français, soit français-allemand. Ceci serait à définir pour les communes Baalen, Welkenraad et Plombières, ainsi que pour Malmedy et Wehm, éventuellement pour d'autres communes si elles le souhaitent. Une consultation des citoyens me semble donc nécessaire. En respectant les langues réciproques, comme c'est déjà le cas pour les 9 communes de la région de Eupen-Saint-Vith, il serait possible d'élargir cette entité à une commune trilingue ou même quadrilingue si on ajouterait le luxembourgeois. Une telle association de communes des 2 côtés de la frontière linguistique pourrait être créée. Mais ceci n'est pas mon point essentiel pour la réforme de l'État belge. Le 8e point, compétences des États. Les compétences attribuées aux États resteraient à définir et leur ampleur dépendrait en effet du modèle de structure choisi. Si c'est une fédération, le pouvoir central resterait à définir aussi en fonction de l'analyse qui est la tâche pour la commission actuellement en formation. Si la Belgique deviendrait une confédération, les compétences du pouvoir central seraient plutôt minimes et de type protocolaire. 9e point, les compétences du pouvoir central. Le pouvoir central resterait dans les mains d'une assemblée de sénateurs, supposons 25 ou 50, qui sont les élus des différents États membres. Cette assemblée représenterait les différentes régions ou d'anciennes provinces, un peu comme le Sénat aux États-Unis. Les compétences sont à définir et dépendent, comme déjà indiqué, de la structure du futur État, fédération ou confédération. Par exemple, la Flandre pourrait avoir 13 sièges, Bruxelles 3 et la Wallonie 8. Un siège serait prévu pour Eupen-Saint-Vith. Le président fédéral. Nous avons déjà évoqué, et ceci est le 10e point, une solution dans le sens d'une solution à la belge, en ayant un président ou une présidente en quelque sorte héréditaire de la famille de Saxe-Cobourg et Gotha. Conclusion. Plutôt que par des ajustements cosmétiques, nous pensons qu'il est nécessaire de repenser l'État belge complètement si on veut qu'il existera dans le futur. Sinon, le risque est grand, il tombera à part plutôt que l'on ne le pense. Si les aspirations des partis flamands ne sont pas respectées suffisamment, on peut prévoir les mêmes scénarios qu'en Écosse et en Catalogne. La nouvelle constitution de l'État belge, donc, doit donc tenir compte de 2 scénarios futurs possibles, celui de sa désintégration paisible et celui d'une nouvelle constitution européenne basée sur une République européenne fédérale. Non pas des États nationaux, mais plutôt des États, des régions et métropoles. Au XXIe siècle, il est nécessaire de passer au-delà des nationalismes du XIXe et du XXe siècle. La nouvelle Belgique devrait laisser à ses États membres la liberté de choisir ou d'opter pour ce futur européen. Les 2 grands États, Flandre et Wallonie, pourront à eux seuls représenter un État européen fédéral dans cette République européenne fédérale. Bruxelles pourra rester le district administratif et les communautés d'Eupen et de Saint-Vith pourront eux-mêmes décider s'ils veulent, par exemple, appartenir à une région européenne fédérale de Rhénanie ou du Luxembourg selon le cas. Jusque-là, ils doivent définir leur identité propre, non pas par une belgitude exagérée, mais en tant qu'un mosaïque d'une Europe nouvelle. Merci pour votre attention.